sur RFI.
RFI 19h30, l'heure est au débat.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Allez, J-11 avant les élections européennes en France. Le scrutin se tiendra le dimanche 9 juin. Et à mesure que l'échéance se rapproche, eh bien, il semble que l'écart se creuse entre la liste du Rassemblement national, qui encore en début de semaine a battu un nouveau record, et celle de la majorité présidentielle. Pour l'exécutif, il y a urgence. Et face à cela, eh bien, c'est le président Emmanuel Macron qui se place en première ligne. Il multiplie les déplacements et les prises de position, allant même jusqu'à proposer un débat avec la chef de file des députés RN, Marine Le Pen. Notre question ce soir, Emmanuel Macron est-il toujours plus jupitérien? Pour reprendre ce mot qu'il s'était lui-même attribué, c'était quelques mois avant sa première élection en 2017, en référence au dieu romain qui gouverne la terre et le ciel. Jusqu'où ira cette agitation tous azimuts? Que révèle-t-elle? Quels en sont les risques? Et est-ce que cette stratégie peut être couronnée de succès? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos deux invités en studio. Philippe Monrochevrolet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste en communication politique, président de MCBG Conseil et professeur à Sciences Po. Face à vous, Bruno Cotrez, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, chercheur CNRS au Centre de Recherche Politique de Sciences Po, CVPOF. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors, je parlais d'agitation, le terme n'est pas galvaudé. On va prendre la semaine dernière du président français. Mardi soir, donc dernier, il s'envole pour la Nouvelle-Calédonie, tout de même 25 heures de vol. Il y reste 24 heures. Samedi soir, il est déjà de retour. Il va à Lille pour la finale de la Coupe de France de football. Et le dimanche, il part en Allemagne pour une visite de 3 jours. Philippe Moreau-Chevrolet, comment on analyse cet agenda? Ça signifie quoi, cette stratégie d'être ainsi en première ligne sur tous les dossiers, en tout cas de vouloir être en première ligne sur tous les dossiers?
Ça correspond à ce qu'Emmanuel Macron a toujours fait. Il veut être président partout, tout le temps, dans tous les compartiments de jeu. Il laisse très peu de place au Premier ministre et même aux ministres, qui sont en fait devenus progressivement plus des porte-parole que des ministres à part entière. Donc on est dans cette logique de l'hyper-présidentialisme. Ça domine toutes les institutions, ça contamine, on le voit, l'élection européenne, qui devient un duel plus qu'un débat finalement. Et c'est la logique écrasante de la 5e. Je pense qu'Emmanuel Macron a poussé la 5e République jusqu'aux dernières limites. Et je ne vois pas ce que Marine Le Pen, si elle est élue en 2027, pourra faire de plus, parce que là, on est vraiment très, très présidentialisé.
Oui, parce qu'on a déjà toujours dit que la 5e République, c'était... Le chef de l'État qui a tous les pouvoirs, qui est chef des armées, ça s'est poussé à l'extrême par Emmanuel Macron.
En théorie, c'est pas ça. En théorie, il y a toujours eu une concurrence de deux thèses qui s'affrontaient en permanence et qui s'équilibraient. Celle du président capitaine qui décide de tout et celle du président qui partage le pouvoir avec son premier ministre. Et finalement, les Français aimaient bien aussi ce partage du pouvoir et cet équilibre des pouvoirs. Là, le problème, c'est qu'on est dans un déséquilibre total. Il n'y a plus vraiment de contre-pouvoir. Il n'y en a pas beaucoup, en tout cas. Et on a un président qui n'est plus en capacité d'être freiné. Voilà. Il faut que par l'ordre des choses, le pouvoir limite le pouvoir. C'est la définition de l'équilibre des pouvoirs dans une démocratie. C'est Montesquieu qui l'a défini, si je ne me trompe pas. Je parle sous le contrôle du professeur Bruno Cotrez. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fond, il faudrait que quelqu'un dise à Emmanuel Macron que ce n'est pas son domaine, qu'il ne devrait pas intervenir là. Il faudrait que... il y a plus de pluralisme pour son propre intérêt à lui, finalement.
Est-ce que, Bruno Cotrez, vous qui êtes politologue, est-ce que des voix s'élèvent pour dire à Emmanuel Macron eh bien, de faire ci ou ça? Il n'en a que... Enfin, il fait finalement ce qu'il souhaite. Qu'est-ce qu'on peut... À quel point, effectivement, il est complètement indépendant dans ses prises de décision? À quel point il est seul dans ses prises de décision?
Alors, il y a évidemment des voix. Les voix, c'est cette désopposition. Il y a des voix aussi de spécialistes des institutions qui, effectivement, sans nécessairement d'ailleurs être des défenseurs d'une éventuelle 6e République un jour, disent on a atteint les limites. Effectivement, comme Philippe Moreau-Chevrolet vient de le rappeler, on a atteint les limites, on a poussé le curseur trop loin. Donc effectivement, il y a tout un tas de voix, il y a des débats qui existent sur cette question. C'est vrai qu'Emmanuel Macron avait théorisé, vous le rappeliez tout à l'heure, cette hyper-présidence jupitérienne. Ben, on a vu aussi que ça avait connu un certain nombre de ratés spectaculaires, et notamment la crise des Gilets jaunes en particulier. Là, on voit qu'Emmanuel Macron est dans une tentative, au fond, de ressusciter le clivage initial le clivage, on va dire, fondamental sur lequel il a fait sa carrière politique à partir du milieu des années 2010, de ressusciter le clivage entre les partisans de l'intégration économique mondiale, pas seulement européenne, l'adaptation de la France à cette nouvelle donne, et puis ceux qui rêvent d'un retour à la protection dans les frontières nationales. Alors, de ce point de vue-là, c'est à la fois le moteur essentiel du macronisme, mais force est de reconnaître que c'est quelque chose qui concerne l'ensemble des démocraties européennes et qu'on retrouve ce type de débat dans à peu près tous nos pays européens et au-delà des pays
européens. En fait, c'est un
européens.
Débat en gros entre l'exécutif et le Rassemblement national
Alors,
aujourd'hui.
En France, ça vient se durcir et s'incarner dans ce débat. Effectivement, les deux deuxièmes tours de la présidentielle 2017 et 2022 résument cet état de fait. Par contre, quand on regarde le premier tour, et ça c'est vraiment intéressant, dans les deux cas de figure, on voit que dans les premiers tours de 2017 et de 2022, le deuxième clivage, celui autour de la gauche et de la droite, continue d'attirer, continue de se manifester. Au fond, on a une situation de coexistence, de cohabitation entre ces deux clivages. Emmanuel Macron, au fond, fondamentalement, a essayé de faire que la vie politique française ne soit plus que dans une seule dimension, avec un seul clivage.
Il a monopolisé cette opposition.
Voilà, ce qu'il appelait
et il a désigné le RN comme son
adversaire. Oui, ce qu'il a appelé à un moment donné principal. Les nationalistes belliqueux, il les appelle même un jour dans un discours. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que le fait d'avoir deux fois la présidente à l'époque du Rassemblement national au second tour contre lui, ça symbolise ça. Et lui, il essaye de ressusciter cette idée disant « l'Europe est en danger ». Il nous a dit récemment que l'Europe était en danger de mort. Même carrément.
Lors de son discours de la Sorbonne.
Lors de son discours de la Sorbonne, l'Europe en danger.
25 avril dernier, ouais.
Donc il faut battre le rappel des troupes et que tout le monde rejoigne la liste de Valéry Ayer d'après le président de la République.
Philippe Monrochevrolet, rien n'a changé depuis 2017. Il venait de débuter son premier mandat quand il a fait son premier discours à la Sorbonne sur l'Europe. Il en a refait un, du coup, qui a été décompté sur le temps de parole de la majorité présidentielle, la liste de la majorité présidentielle, portée par Valéry Ayer, dont on entend peu parler. Qu'est-ce qui a changé finalement entre le Macron de 2017 et le Macron de 2022 aujourd'hui ?
Le Macron de 2017 incarnait une forme de renouveau, prétendait incarner la Startup Nation. Il y avait la volonté de transformer quelque part la France en entreprise dans le sens dynamique, innovant du terme. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, il capitalise sur son cœur d'électorat, qui sont les seniors plutôt aisés. Il ne sort pas trop de ce terrain-là. Il va dans la fiction, il se réfugie dans la fiction politique très souvent. Pendant le Covid, c'était la guerre. Là, c'est aussi la guerre, une autre guerre, alors qu'il est moins une fiction. Il y a vraiment des enjeux, mais il n'est pas le leader de l'Europe, il n'est pas en capacité de l'être. Donc, c'est toujours, il cherche toujours, au fond, à être le héros de la France, au sens H-E-R-O-S. Il veut être le héros de la France. C'est ça qu'il cherche. Il veut être celui qui va sauver la France de quelque chose. Il se met volontiers lui-même, d'ailleurs, dans la difficulté pour se sauver après. Il l'a fait avec les Gilets jaunes, il l'a fait avec les agriculteurs, d'une certaine façon. Il aime bien, il le fait avec les Européennes à chaque fois.
Il aime prendre des risques.
Oui, et il aime bien sauver le jeu. Il aime bien être celui qui sauve. Mais pour qu'il y ait quelque chose à sauver, il faut qu'il y ait un péril. Donc, au besoin, il crée le péril. Parce que c'est plus facile de sauver la France d'un péril qu'il a lui-même imaginé, quelque part. Donc, quand il dit « il y a une guerre, je vous sauve d'une guerre », bon, la guerre contre le Covid, elle n'existe pas. Ce n'est pas une guerre, du tout. Du coup, il peut nous sauver, puisque par définition, tout ça reste dans la fiction. C'est cette contamination, c'est un trait d'époque, la contamination de la réalité politique par la fiction. Lui est allé plus loin que les autres pour en faire une arme politique, quelque part, pour sa propre sauvegarde à lui, dans une logique très individualiste. Ça fonctionne pour lui, il a été réélu quand même. Enfin, je veux dire, il a été réélu sans faire campagne, quasiment, sans adversaire, quasiment, sur une fiction, sur quelque chose qui est un récit qui n'existe pas. Donc c'est très fort, quelque part. Il a réussi, lui, à faire de son histoire politique un récit, à imposer ce récit au pays et à vivre avec.
Bruno Cotresse, comment vous réagissez ? C'est intéressant, cette lecture, cette analyse de Philippe Monrochevrolet.
Je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron, fondamentalement, veut s'inscrire dans cette tradition française, effectivement, du mythe du sauveur. Alors, le mythe du sauveur a impérativement besoin que la patrie soit en danger. Et le thème de la patrie est en danger est très récurrent chez Emmanuel Macron, il nous annonce toujours au fond que nous sommes au bord de l'abîme.
Nous sommes en guerre.
Nous sommes en guerre.
C'était à l'époque du Covid.
L'Europe va disparaître. L'Europe est menacée de mort.
L'Europe va mourir.
Voilà, et on doit s'en remettre à lui. Vous savez, dans sa campagne de 2017, il y a même un de ses discours dans lequel il y a des propos que certains pourraient presque qualifier quasi bibliques. Hein. Le chef de l'État dit à un moment donné, vous êtes levé un par un et vous m'avez rejoint, etc. Ouais. Donc c'est très important chez lui. Et par ailleurs, dans son électorat, dans son cœur d'électorat, c'est une narration qui a pris beaucoup, beaucoup, qui est très solidement installée. Le cœur de l'électorat d'Emmanuel Macron voit Emmanuel Macron comme une espèce de Sisyphe qui remet sur le métier chaque fois son entreprise impossible à atteindre, réformer le pays des Gaulois réfractaires, impossible à réformer, des obstacles incroyables seraient sur sa route, le Covid, l'Ukraine, les Gilets jaunes, et lui ne se lasse jamais de revenir sur son entreprise, de vouloir réformer le pays impossible à réformer, et c'est consubstantiel au macronisme. C'est à ce point que je pense que son électorat a à peine besoin qu'il ait des résultats, puisque ce qui intéresse ce cœur d'électorat, c'est cette idée du sauveur qui veut essayer de réformer le pays des Gaulois réfractaires.
Et est-ce que ça
avait-il dit ?
Est-ce que ça s'inscrit dans une même dimension, toute cette stratégie mémorielle qu'il a ? La multiplication des hommages nationaux, je ne sais pas combien il y en a eu aux Invalides depuis son premier mandat. Alors, il y a le 80e anniversaire du débarquement qui se profile au mois de juin. Je pense qu'il y aura pas mal de prises de position. Et Emmanuel Macron va tenter de récupérer quelque chose politiquement, évidemment.
Alors, bien sûr, c'est d'abord une figure imposée du rôle présidentiel, quand même. Tous nos chefs de l'État, François Hollande, notamment dans ses deux dernières années de mandat, a fait beaucoup de commémorations. Donc, c'est un peu une figure imposée du président de la République. Il est là aussi pour prendre en charge, pour perpétuer la mémoire des grands événements fondateurs de la nation française. C'est très important. Mais c'est vrai que chez Emmanuel Macron, ça prend une dimension particulièrement emphatique, avec à la fois beaucoup de discours et des discours qui s'inscrivent dans un registre sémantique qui est toujours effectivement celui de vouloir nous dire que nous sommes un grand pays, mais que nous ne pouvons perpétuer la grandeur de ce pays qu'au prix de le suivre.
Philippe Moreau-Chevrolet, quand je vous demandais comment a évolué l'hyper-présidence d'Emmanuel Macron entre 2017, son premier mandat, 2022, sa réélection 2024 aujourd'hui, je voudrais savoir, et on va répondre comme ça directement à notre question, est-ce qu'il est plus jupitérien ? Parce qu'il s'était défini comme ça quelques mois avant. Jupitérien quelques mois avant son élection, en référence au dieu qui régit le ciel et la terre. Finalement, en 2022, lors de son allocution du 14 juillet, son interview politique du 14 juillet, il avait dit qu'il était plutôt vulcain. Donc la forge, le feu, avait-il dit. Bon, bref, en gros, est-ce qu'aujourd'hui vous le trouvez plus hyper-président qu'en 2017 ?
Il est plus seul, en tout cas. Il est isolé. Il n'y a plus vraiment de lieutenant.
Il est obligé. C'est ça que vous voulez dire ?
Il est...
En tout cas, il a créé ce rapport-là.
Il a créé ce rapport au pays, oui, qui est un rapport d'inévitabilité. Je ne sais pas comment vous dire.
Non, on comprend.
C'est qu'on ne peut pas éviter Emmanuel Macron. Est-ce qu'on désire vraiment Emmanuel Macron ? On ne sait pas bien, mais on ne peut pas éviter qu'il soit là. D'une certaine façon, c'est une période historique assez bizarre. Il est très seul. Il l'a choisi aussi, il l'a construit. Moi, ce qui me frappe chez Emmanuel Macron, c'est sa faculté à incarner d'autres présidents que lui-même. C'est-à-dire qu'il a joué à être Mitterrand dans la cour du Louvre avec la même musique que Mitterrand en 81, quand il a été élu. Il a imité Chirac en Israël. Dernier moment, il a changé tout son parcours pour prendre le même que celui de Chirac. Il a engueulé les policiers israéliens avec le même mauvais anglais qu'avait Chirac, alors qu'il parle un meilleur anglais que Chirac, ce qui n'est pas difficile. Il a rejoué ça, il a imité plein de séquences.
Ça rejoint la scénarisation que vous évoquiez de,
oui, mais c'est étonnant,
de la politique selon
Emmanuel
Macron.
Ce besoin d'être zélig, un peu dans le film de Woody Allen, ce besoin d'incarner des figures du passé, il pourrait être lui-même après tout. Moi, ce qui aurait intéressé les Français, ce qui les intéressait d'ailleurs, c'était de découvrir Emmanuel Macron. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on l'a découvert ? Non, on l'a vu incarner des rôles successifs et on a toujours le même point d'interrogation qu'avec François Hollande. D'ailleurs, c'est qui est cette personne ? Sarkozy, on voit qui il est, voilà, c'est en bien ou en mal, hein, mais on voit qui il est. Chirac, on voyait à peu près qui il était, même si c'était plus complexe que ce qui n'y paraissait. C'est pas facile de savoir qui est Emmanuel Macron, et on a le même point d'interrogation qu'avec Hollande. Qui est-il ?
Vous avez évoqué bah, son rapport au Premier ministre, en disant que pas le Premier ministre, quand même, dans l'histoire de la Ve République, il est important. C'est le deuxième personnage de l'État.
Il était important.
Il était important, justement. Comment est-ce que vous définiriez... Pourquoi il ne compte pas davantage sur Gabriel Attal aujourd'hui, Emmanuel Macron? Pourquoi est-ce que c'est lui, Emmanuel Macron, qui a effectué la semaine dernière ce fameux déplacement en Nouvelle-Calédonie? C'est un dossier de Matignon, la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi c'est lui, on va en parler, de ce débat que propose le président français, qui propose un débat avec Marine Le Pen?
Parce qu'il pense...
Alors que ce sont des élections européennes qui se profilent.
Je pense qu'il n'a pas compris pour les européennes qu'il pouvait être un repoussoir et qu'il pouvait alimenter un référendum contre lui. Parce que la réalité, c'est quand même ça. Je parle sous le contrôle de Bruno Cotterêts, mais le risque, c'est ça. Je pense qu'il se considère, lui, comme le seul capable de sauver son camp. Ça, c'est ce qu'on a dit. Et je pense aussi qu'il a un besoin vraiment d'être au centre de l'attention en permanence et qu'un Premier ministre, ça le prive d'une partie de l'attention médiatique. Je pense qu'il pense qu'il n'existe pas sans être au centre de l'attention médiatique. Il ne maîtrise rien sans être au centre de l'attention médiatique. C'est un président qui a décidé de tirer les leçons du fonctionnement actuel des médias et des réseaux sociaux et d'être constamment la pierre angulaire du débat démocratique français. C'est lui qui doit être au centre. Ce qui est extrêmement toxique pour son camp, pour lui-même et surtout, parce qu'il n'y a pas qu'Emmanuel Macron dans la vie, pour la démocratie française, parce qu'au fond, on aurait quand même besoin de retrouver une vraie opposition, des vraies incarnations. Édouard Philippe, s'il veut devenir président de la République demain, il faut qu'on sache quelle est son opinion sur l'Ukraine. Vous la connaissez? Non, enfin, moi je ne la connais pas, j'imagine. On connaît un peu son opinion sur Israël, un peu parce qu'il l'a dit récemment, un peu sur la Nouvelle-Calédonie parce qu'il s'est différencié du chef de l'État. D'ailleurs, il a gagné des points grâce à ça. Mais il est inexistant politiquement. On a besoin qu'il y ait des gens qui sortent dans la lumière pour reprendre, redistribuer l'attention médiatique et politique et regagner en démocratie.
Qui conseille Emmanuel Macron? C'était un peu la question que je voulais vous poser tout à l'heure, Bruno Cotterêts. Quand je posais la question, quand j'évoquais des voix qui peut-être montent autour, je ne pensais pas aux oppositions d'abord, je pensais au sein.
Au sein
peut-être de son équipe rapprochée, on parle de M. Kohler, qui est le secrétaire général de l'Élysée, qui est très proche du président français. Est-ce que il est vraiment le seul à prendre toutes ces décisions, ou est-ce que il entend certaines voix?
Je pense que évidemment le chef de l'État a évidemment une équipe resserrée, en particulier Emmanuel Macron, une équipe visiblement très resserrée de conseillers qui sont là pour partie d'entre eux depuis le début. Et le corollaire, je pense, de ce que vient de décrire Philippe Mauchevrolet sur ce style Macron, c'est effectivement de ne pouvoir fondamentalement faire confiance à personne. Et si on ne peut faire confiance à personne, on ne peut pas avoir un système de décision qui repose sur du débat, de l'échange de points de vue, de la confrontation de points de vue. Et donc, c'est vrai que le chef de l'État incarne particulièrement ce point extrême de la Ve République. Le mouvement politique qu'avait fondé le chef de l'État était lui-même articulé autour de sa personne. C'est ce qu'on appelle un parti personnel. C'est-à-dire, c'est un parti qui ne repose pas sur un corpus idéologique. Le corpus idéologique, ce qui est intéressant, c'est que dans les moments de flottement, dans les moments de doute, dans le camp qui est au pouvoir, le corpus idéologique, ses grandes références, ses grandes valeurs, permettent aussi une forme de balisage, de savoir où on est, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on va. Mais là, du coup, on a un système de gouvernement qui est articulé sur le génie personnel, entre guillemets, d'Emmanuel Macron, ce qui n'est pas un corpus idéologique, et ce qui fait que la majorité n'a pas un certain nombre de valeurs, d'incarnations, de mots-clés, de concepts fondamentaux à mettre dans l'espace public, auquel on peut se raccrocher pour comprendre où est-ce qu'on va. Ici, il y a quelque chose qui caractérise pour moi particulièrement le deuxième mandat, et je fais une différence assez nette entre le premier et le deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Le premier mandat, on a un président très jeune, il est élu à l'âge de 39 ans, ça se passe de commentaires. Le message est simple, la France a besoin d'un coup de modernisation de sa vie politique. Le deuxième mandat, on a tous la même question, qui est quel est le résultat de politique publique, quel est le choix public fondamental que le chef de l'État veut avoir atteint à l'issue de son deuxième mandat. Et cette question se pose avec d'autant plus d'acuité qu'à l'issue du deuxième mandat, on aurait eu 10 ans de macronisme. 10 ans, c'est considérable. Pour la majorité des électrices, des électeurs, 10 ans, c'est à peu près un sixième de leur vie de citoyen.
Il s'est fixé des objectifs, Emmanuel Macron, à l'issue de son deuxième mandat.
Le plein emploi.
Voilà, le plein emploi, ce que j'allais dire.
Emploi, mais est-ce que le plein emploi est un modèle de société? C'est un outil pour faire quelque chose, le plein emploi. C'est un outil.
Il y a un décalage entre ces objectifs fixés, finalement, et
l'envergure du revenu national. C'est pour créer du revenu national. C'est pour permettre à la nation de s'enrichir, le plein emploi, mais normalement au service d'un objectif. Et là, on a beaucoup de mal à répondre.
Emmanuel Macron est-il toujours plus jupitérien? Oui, vous nous dites ce soir, Philippe Moreau-Chevrolet et Bruno Cotterêss. Bruno Cotterêss, politologue, chercheur CNRS au Centre de Recherche Politique de Sciences Po, le CEVIPOF. Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique, président de MCBG Conseil et professeur à Sciences Po. Alors, qu'augure cette stratégie dans les prochaines semaines, même dans les 11 prochains jours? Parce que j'ai commencé cette émission en disant que dans 11 jours, il y avait les élections européennes en France. Philippe Moreau-Chevrolet, un point sondage, record pour Jordan Bardella, la liste du Rassemblement national en début de semaine, 33,5% selon le sondage de lundi. Valérie Ayer, on n'en entend pas parler, 16%. En 2019, il a aussi déjà joué la carte de l'hyperprésidence à quelques semaines des élections européennes. Et au final, le RN et la majorité présidentielle ont terminé au coude à coude, un point d'écart seulement. Est-ce que ça peut se reproduire?
C'est ce qu'il espère, oui. Il a reproduit le même schéma. Il a choisi une non-candidate, quelqu'un qui n'était pas connu, pas capable de faire campagne. Ce n'est pas un reproche que je lui fais. C'est extrêmement difficile de faire une campagne européenne. Elle n'est pas connue du tout. Elle n'est pas prête à faire ça. C'était une tâche vraiment sisyphéenne, on va dire. Et elle se retrouve à faire ça. Et du coup, il est obligé d'aller la sauver, ce qu'il aime bien faire. Il oblige Gabriel Attal à s'impliquer parce que voilà, il faut pas que le chef de l'État soit le seul à prendre des coups. Donc,
il était encore hier soir à Boulogne-Billancourt.
Oui, mais il voulait pas y aller au départ. On l'a poussé, quoi. Il a exécuté Jordan Bardella, mais ça s'est retourné contre lui dans les sondages, puisque on peut dominer quelqu'un, être le meilleur de la classe, mais Emmanuel Macron n'a pas été élu parce qu'il était le meilleur de la classe. Il a été élu malgré ça, ce qui est quand même très différent. Et Jordan Bardella, il a juste eu à être là finalement, et c'était suffisant. Ce qui peut se passer s'il y a une défaite, ça dépend des termes de la défaite. Si c'est une défaite à 10, 12 points, comme c'est en train d'être annoncé, c'est colossal et on change de situation politique. Enfin, il y aura un avant et un après. C'est difficile de savoir comment il va s'en sortir de cette difficulté-là.
Parce qu'il a fait face à quand même, entre guillemets, énormément de difficultés.
Il a toujours survécu, il est très résilient.
Il y a eu la motion de censure, il y a eu énormément de choses qui a été écartées de très peu.
Il est très résilient, mais là, il n'a plus rien à promettre ni à offrir. Il arrive en fin de mandat, donc c'est ça qui est compliqué. Donc si Bardella est élu avec une telle marge d'avance, et puis s'il y a une possibilité quand même, c'est que Glucksmann, malgré tous les efforts d'Emmanuel Macron, finissent par passer devant Valérie Ayer. Et s'il termine devant Valérie Ayer, pour le coup, là, on est en terrain inconnu, parce qu'on a une redéfinition complète du jeu entre le RN, une gauche qui renaît, etc., et la Macronie en capilotade. Donc la question, c'est ça dépendra beaucoup du jeu qu'il aura. C'est un très bon joueur, mais il faut quand même qu'il ait des cartes. Hein.
Bruno Cotterêss, de quoi présage cette stratégie? Encore une fois, cet adversaire que depuis le début, Emmanuel Macron a désigné, le Rassemblement national. Et je vais citer l'historien Patrick Boucheron, qui a dit « Désigner son adversaire revient à choisir son successeur ». Est-ce que vous êtes d'accord?
Il y a un peu de vrai, effectivement, dans ça. C'est vrai que si on repense au débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, au fond, entre les lignes, c'est le sacre de Jordan Bardella, ce débat. C'est son sacre, c'est-à-dire qu'il est reconnu par l'exécutif comme étant son principal adversaire, comme étant celui qui porte la voix des oppositions à un âge si jeune, 28 ans. Ouais. Donc, d'une certaine manière, ils l'ont consacré. Ouais. Et c'est vrai que ça nous dit quelque chose. D'abord, il faut toujours rappeler à nos auditrices et auditeurs que les raisons pour lesquelles le Rassemblement national va gagner sans doute pour une troisième fois d'affilée les élections européennes, ce qui est quand même un événement politique de très significatif. Les raisons pour lesquelles ce mouvement politique qualifie deux fois sa candidate au second tour de l'élection présidentielle, ce qui est aussi quelque chose, quelque part, un événement politique très important, ce sont des raisons de fond très structurelles, qui sont peu susceptibles d'être altérées, modifiées, atténuées par un très beau discours, par un débat réussi de manière très brillante par l'un ou par l'autre. Donc il y a des raisons structurelles extrêmement fortes. Ce sont des raisons qui sont liées aux transformations de nos sociétés sous l'influence de ce qu'on appelle la globalisation depuis les 30 dernières années. Voilà, il y a 30 ans, il y a 40 ans, quelque chose d'important s'est passé dans nos vies quotidiennes. Nous avons commencé à découvrir des produits importés du monde entier, du Made in China, voilà, qu'on ne voyait pas il y a 45 ans, 50 ans. Et cette dynamique de très forte recomposition du système international, des économies, des rapports de force internationaux, a bouleversé les grands équilibres sur lesquels nos sociétés reposaient. Il y a eu des perdants, il y a eu des gagnants, bien évidemment. Et nos vies politiques, nos systèmes politiques, nos élites politiques n'ont pas su bien empoigner cette question, l'expliquer.
Ce qui explique la montée des populismes aujourd'hui.
Voilà, et des formations politiques se sont développées, des entreprises politiques se sont développées pour répondre à la crise d'identité, la crise existentielle, la crise d'angoisse sociale que nos pays traversent. Et le paradoxe, c'est que au fond, jamais la question des frontières n'a été aussi aiguë, ne s'est posée avec autant d'acuité que depuis que nous vivons dans un monde global et ouvert. Ça a remis au centre des préoccupations la question de l'identité et des frontières. C'est une sorte de paradoxe de la globalisation. Et le Rassemblement national est un parmi les mouvements politiques qui a occupé cette place, qui était de donner du sens pour, notamment ceux qui étaient le plus durement touchés par ces recompositions, donner un sens politique.
Est-ce qu'Emmanuel Macron, selon vous, Bruno Cotteras, il peut bouger de sa ligne, de cette ligne d'hyper-président qu'il tient depuis 2017? Il reste 3 ans encore avant la fin de son mandat. Philippe Moreau-Chevrollet évoquait les enseignements qui allaient devoir être tirés s'il y a plus de 10 points d'écart entre la liste de la majorité présidentielle et celle du Rassemblement national aux élections européennes. Ça veut dire quoi, tirer les enseignements?
Je pense que le chef de l'État a loupé le dernier train pour faire ça. Le dernier train, c'était au lendemain de sa réélection et des élections législatives, lorsqu'il nous annonce qu'il va tenir compte de ce qui s'est passé, qu'il n'a pas la majorité absolue, qu'il va en tenir compte. Alors, dans le discours, il missionne Elisabeth Borne pour rechercher ces fameuses majorités à géométrie variable, ces majorités de projet, mais en donnant un périmètre à cet objectif qui était le périmètre de son programme présidentiel. Et donc, il y a une situation qui est une situation incohérente, et je pense que là, il a laissé passer le dernier train pour essayer de faire évoluer notre pays vers quelque chose de nouveau, que nous connaissons mal, alors que d'autres pays le connaissent, qui est des formes de gouvernement plus de coalition. Alors, le chef d'État dit, mais moi, j'ai proposé à des mouvements politiques de jouer ce jeu, c'est eux qui n'ont pas voulu, mais je dirais que d'une certaine manière, c'était peut-être aussi à lui de prendre l'initiative et d'impulser ça.
Il a tenté aussi, alors je ne sais pas si c'était gouvernement de coalition, il nous reste quelques secondes, Philippe Moreau-Chevrollet, mais il y avait ces initiatives politiques d'ampleur quand il a reçu plusieurs partis d'opposition, ça a fait flop aussi.
Il a tenté de recréer l'Assemblée nationale en dehors de l'Assemblée nationale, qui s'est rêvé lui-même chef de majorité au sens comme le Premier ministre pourrait l'être dans l'ancienne version de la Ve République. Il a pensé qu'il allait pouvoir négocier directement avec les partis sa politique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un Parlement. C'est le Premier ministre qui doit endosser ce rôle-là et ça s'est effiloché parce que les gens ont arrêté de cautionner ce fonctionnement avec les meilleures raisons du monde. Ça n'est pas un fonctionnement parlementaire démocratique.
Oui, donc oui, Emmanuel Macron est toujours plus jupitérien, toujours plus hyper-président et c'est à relever de nombreux dangers à venir, de nombreux risques à venir. Merci beaucoup à vous deux, Philippe Moreau-Chevrollet, spécialiste en communication politique, président de MCBG Conseil et professeur à Sciences Po, Bruno Cotteras, politologue, chercheur au CNRS, au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat, Hélène Avril à sa réalisation. Et restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans une minute, un peu plus. Ce sera l'heure du journal de 20h. François Ballarin qui présentera ensuite le décryptage, la question de la reconnaissance d'un État palestinien ce soir qui agite la communauté internationale. Juste après, 20h30, heure française, Afrique Soir, la première édition. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et au programme ce soir, les élections générales en Afrique du Sud.
Absolument, un scrutin crucial et à haut risque pour l'avenir de l'ANC au pouvoir depuis 30 ans. Le parti de Nelson Mandela pourrait perdre sa majorité absolue.
Et puis au Cameroun, suite du bras de fer guerre entre la fécafoot de Samuel Eto'o et le gouvernement.
Et oui, le ministre des Sports a reçu effectivement cet après-midi une délégation de la fédération et appelé à l'apaisement, tout simplement.
Eh bien, merci. Zéphirin Quadio, on vous retrouve dans un peu plus d'une demi-heure sur Radio France Internationale pour la première édition d'Afrique Soir de ce mercredi. Restez à l'écoute dans 30 secondes. François Ballarin est déjà là, c'est le journal de 20h.